peut sortir là. Allez là.
Ça fait trop de bien.
Allez-y,
j'adore ça. Moi je sors tout le temps.
Mais putain, sortez de chez vous,
je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête. Allez, touchez ferme, sortez.
Oui, alors oui, franchement, c'est trop chouette.
C'est
vraiment trop
intéressant.
Allez-y, quoi.
Sortez.
Sortez,
c'est
cool. Sortez les gens parce
que. Ok, vous voulez sortir.
Écoutez,
sortez.
Je suis chaud comme un chocolat.
Sortez tous avec nous.
Sors.
Il est 16h sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Qui dit 16h sur Radio Campus Tour dit l'émission Sortez. Et je suis avec Samuel, comment vas-tu?
Ça va et toi?
Ça va bien, je te remercie. Et donc c'est le printemps et avec l'arrivée des beaux jours, c'est vrai qu'on fait un petit peu plus d'émissions vertes. Alors je sais pas si on est influencé par des messages subliminaux avec, avec les petits arbres en fleurs et les oiseaux. Mais donc aujourd'hui, on va pouvoir échanger tout au long de cette émission avec Lilian Moimo, éducateur à l'environnement au sein de l'association Couleurs Sauvages. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour, merci beaucoup.
Et donc, première petite question, pouvez-vous nous raconter l'histoire de Couleurs Sauvages, quand et pourquoi l'association a-t-elle été créée?
Ok, alors je vais vous en parler un petit peu. Alors, bon, c'est pas moi qui ai créé l'association, donc j'y suis depuis bientôt 3 ans. Mais l'association existe depuis 20 ans, on a fêté nos 20 ans l'année dernière. Donc c'est une association en fait au départ qui a été créée par des passionnés, hein, et on est toujours des passionnés dans cette association, qui faisait beaucoup de photographies. Et à un moment, au début c'était surtout des expositions photos, et à un moment l'idée est venue de faire un peu des animations et de se dire qu'en fait on n'a pas besoin d'aller traverser la Terre pour découvrir la nature, et que déjà là, en Indre-et-Loire, on a une nature assez chouette si on sait ouvrir les yeux, si on sait regarder et prendre le temps. D'où vient le nom aussi, Couleurs Sauvages, hein, ça vient de ça. Donc voilà d'où vient le nom de cette association et sa création.
Et alors, quelles sont les valeurs ou l'idée, tu viens d'en parler un petit peu, l'idée fondatrice derrière cette association?
Alors, dans notre association, on a 2 grands objectifs et on essaie d'y répondre par plein de biais différents. Déjà, c'est de sensibiliser un maximum de personnes à la nature. Voilà, la découvrir, l'observer. Et puis, qui dit nature dit aussi enjeux environnementaux. Tout est lié. Hein. Parce que voilà, on aime la nature, on veut la protéger, on veut qu'elle reste comme elle est et que ça n'empire pas. Donc ça, c'est nos 2 grands objectifs. Et du coup, pour y répondre, nous, on travaille sur plein d'approches différentes parce qu'on a une équipe très complète. Donc ça va être par le sensoriel, par le ludique, par des animations artistiques, un peu naturalistes. Enfin, on fait vraiment plein de choses différentes avec toujours cet objectif de prendre le temps dans la nature ou de pouvoir comprendre comment la protéger.
Et donc, de combien de personnes cette équipe est composée?
Alors, en termes d'éducateurs à l'environnement sur le terrain, on est actuellement 5. Et après, sinon, on est une association, donc on a des administrateurs. On a 3 administrateurs qui sont investis. On a de la chance parce qu'ils sont, ils sont là, ils viennent nous aider quand il y a besoin. Même quand on fait des stands, par exemple, ils ne sont pas tout le temps juste à signer des papiers, ils viennent nous aider directement sur le terrain. Et puis après, on a aussi, nous, une 50aine d'adhérents qui sont là, et pour certains, qui viennent aussi nous aider bénévolement sur leur temps à eux pour nous filer des coups de main sur des temps d'animation. Donc pour ça, on a de la chance, on est bien entouré, on n'est pas tout seul.
Justement, tu disais, donc c'est une 50aine de personnes en termes d'effectifs. Quel rôle ils jouent au quotidien, ces adhérents bénévoles dans l'association?
Alors, au quotidien, on ne les voit pas tout le temps, mais on essaye déjà d'organiser régulièrement dans l'année des temps où on se retrouve. Par exemple, l'année dernière, on a fait une journée, on est parti aux étangs de Braine pour faire une journée tous ensemble et puis observer les oiseaux. Puis ça crée du lien, hein, des moments comme ça en extérieur qu'on partage. Et puis, ça va être plus sur cette période-là qui va arriver, où les week-ends, nous, on va beaucoup travailler, parce qu'il y a beaucoup de festivals à droite à gauche, festivals nature, de l'environnement. Et des moments, on se retrouve, nous, on est 5 animateurs, et il peut y avoir des fois 2-3 festivals en même temps. Donc, être tout seul, ce n'est pas toujours facile sur une journée. Donc, il y a des adhérents qui viennent sur la journée, sur leur week-end à eux, pour animer avec nous. Donc, ce n'est pas facile, parce que ce n'est pas leur métier. Mais ils sont à fond, ils sont pleins d'énergie. Donc, voilà, on a vraiment de la chance par rapport à ça. Et puis, on en parlait tout à l'heure, juste avant de prendre l'antenne. On a déménagé il n'y a pas longtemps, par exemple. On a changé de locaux. On avait du monde qui était là pour porter les cartons. Ça paraît rien, mais c'est super important.
Il y a une bonne dynamique d'équipe.
Ouais. Exactement.
Quelles sont les actions phares et activités menées par Couleurs Sauvages ?
Alors, action phare, bah, déjà on travaille beaucoup, je vais parler du public pour y répondre, hein. On travaille nous beaucoup avec le public scolaire. Je dirais qu'en gros, sur les personnes sensibilisées, on est après sur trois quarts de scolaires, okay, de jeunes. Et puis après, on a le public qu'on appelle familial, où il y a les parents et les enfants aussi. En période scolaire, on va avoir des temps différents. On va avoir beaucoup de travail plutôt en extérieur, surtout à cette période-là. Nous, on a la chance, on est en lien avec le département et on a le droit de travailler sur des lieux qu'on appelle des ENS, des espaces naturels sensibles. Donc, c'est des lieux qui sont protégés et gérés par le département. Et du coup, les élèves viennent dans ces forêts, dans ces lieux. Et nous, pour faire découvrir la nature, j'ai dit, on utilise plein de moyens différents. Ça peut être, par exemple, pour des primaires ou des collégiens, des rallyes. Où, en gros, ils se mettent en équipe. Ils ont des balises à trouver. C'est sur chaque balise, il y a une épreuve qui va leur apprendre quelque chose sur la nature. Et puis, ils tournent comme ça. Donc, ils sont imprégnés. Ils sont dans le milieu pendant 2 heures. Et en même temps, ils apprennent des choses. Et puis, alors je sais qu'on a tellement de choses qu'on fait avec les plus petits. On fait ce qu'on appelle souvent des balades sensorielles. Balades sensorielles, c'est parce que quand on est petit, on se le rappelle pas, mais une forêt, ça paraît très impressionnant. On n'est pas à la même taille, on voit tout beaucoup plus grand. Donc, balades sensorielles, c'est de faire une petite balade dans la forêt en utilisant nos 5 sens pour découvrir ce lieu d'une manière un peu différente. Donc, on va sentir des choses, on va les toucher, on va écouter un petit peu ces bruits qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc ça, c'est 2 genres d'actions qu'on peut mener. Mais voilà, ça peut être aussi des balades pisteurs où on apprend à reconnaître les indices de présence des animaux. Parce qu'on peut rentrer dans une forêt comme ça et ne rien voir. Mais si on apprend à lire un peu la forêt, on peut voir beaucoup de choses. C'est ça qui est intéressant aussi. Ce qui est important quand même pour nous, enfin moi, j'aime bien le raconter comme ça à chaque fois que je fais une animation, qu'une classe arrive dehors, c'est... on est dans une petite parenthèse, quoi. On oublie tout pendant 2-3 heures. On est vraiment dehors de notre vie quotidienne et ça fait du bien. Enfin, les enfants et les maîtresses, les maîtres aussi, souvent nous disent ouais, on était déconnectés. Et on sent que voilà, c'est important, c'est très important, ouais. Exactement.
Et alors, si on continue un petit peu ce tour d'horizon de l'association, quels sont les principaux partenaires techniques et financiers et est-ce que vous travaillez en réseau ?
Ok. Alors, ben oui. les partenaires techniques et financiers, on a la région Centre-Val-de-Loire qui nous aide via ce qu'on appelle les conventions vertes. On a, je t'ai parlé du département, avec le département, donc ça nous permet d'aller travailler déjà dans les espaces naturels sensibles. On a à peu près 24 animations par an sur ces lieux-là, ce qui est chouette, hein, surtout qu'il y en a certains où, j'en pense un, notamment aux étangs de Narbonne à Jouer-les-Tours, qui sont fermés une partie de l'année pour permettre à la nature de reprendre le dessus, d'être vraiment tranquille. Nous, on a des périodes où on a les clés et on est autorisé à aller travailler sur ces temps de fermeture. Donc, on se sent un peu privilégié. Hein, c'est vraiment des moments chouettes. Après, en partenariat, on a aussi Tour Métropole. On a la Riche qui nous met à disposition les locaux dans lesquels on est actuellement. Et puis, on travaille avec plusieurs communautés de communes qui nous font beaucoup intervenir. Donc, il y a communauté de communes Gâtine-Racan, Loche Sud-Touraine, Touraine-Est-Vallée, etc. Et puis, un dernier aussi, il ne faudrait pas que j'oublie, c'est le syndicat Touraine Propre aussi, avec qui qui est avec nous. Juste en termes de financement par rapport à l'association, le choix a été fait assez rapidement de ne pas dépendre complètement de subventions. Ce qui fait que nous, on est à peu près à 25% de subventions pour tous nos financements. Tout le reste, c'est la prestation, 75%. Donc voilà, c'est-à-dire que plus on travaille, plus on est serein. Voilà, c'est ça, on essaie un maximum. Et puis en réseau, on a un réseau, on est impliqué nous beaucoup dans un réseau régional qui s'appelle le Grain Centre-Val-de-Loire. Et puis on a aussi il y a plusieurs structures en fait en Indre-et-Loire qui travaillent autour de la nature et de l'éducation à l'environnement et on s'entend bien. Alors, il y a assez de travail pour tout le monde, autant tous travailler en bonne cohérence et puis en bonne entente. Du coup, on a, nous, en Indre-et-Loire, donc c'est pas partout comme ça, c'est pas dans tous les départements, on a ce qu'on appelle le RE37, le réseau d'éducation à l'environnement 37. Là, actuellement, plus, c'est moi qui anime ce réseau. L'idée, c'est de se retrouver régulièrement, déjà pour échanger sur notre quotidien, sur les difficultés, les choses qui se passent bien. Et puis aussi arriver de temps en temps à mettre des projets communs en place. Par exemple, à la rentrée, le mercredi, il y a un forum sur l'éducation à l'environnement et au développement durable. et ce qui s'appelle aussi l'école promotrice de santé. Et toutes les structures là, d'éducation à l'environnement seront présentes pour faire vivre des temps aux professeurs, pour qu'ils se rendent compte sur le terrain qu'est-ce qu'on fait, et puis pour présenter aussi nos structures.
Et alors, vous avez un référentiel qualité pour l'éducation à l'environnement du grand public et jeune public. Ce référentiel, comment est-ce qu'il s'obtient et qu'est-ce qu'il garantit ?
Alors, ça, je vais vous en parler rapidement, parce que moi, je suis sur le terrain. C'est Nathalie Blanc, notre coordinatrice, qui gère tout ça. Pour l'obtenir, c'est un dossier à remplir qui garantit nos actions et qui garantit aussi nos objectifs. Et ce référentiel qualité, pour certains professeurs, pour certaines écoles ou collèges, c'est un gage de qualité aussi, et c'est rassurant, et c'est une référence un petit peu. Ça nous permet d'accéder, de travailler dans des endroits où on ne pourrait pas forcément.
On va laisser place au juriste de cette émission, Victor Perrin, étudiant en Master 2 en droit de l'environnement et de l'urbanisme, qui souhaite interroger sur l'agrément Association Protection de l'Environnement via cette chronique.
Bonjour, donc moi mon nom c'est Victor Perrin, je suis actuellement étudiant en Master 2 de droit de l'environnement et de l'urbanisme à l'Université de Tours. Et mon intervention, ça va être de présenter un peu l'association et ses objectifs d'un point de vue juridique. Est-ce qu'en droit, il y a des outils que l'association pourrait mobiliser ? Et bon, pour ça, aujourd'hui, on reçoit l'association Couleurs Sauvages. Et d'un point de vue purement juridique, c'est une association fondée sur la loi de 1901, déclarée en 2004. Et directement, ce qui va être intéressant par rapport à l'examen de l'association d'un point de vue juridique, ça va être la définition de ses objectifs qu'elle a dans ses statuts. Si on examine, si on se penche sur les statuts de l'association, donc c'est-à-dire ses raisons d'être en gros motivées qui ont été déclarées en préfecture, il y a trois missions essentielles qui sont assurées par l'association et ses membres. Le premier, ça va être de valoriser le patrimoine naturel du Centre Val-de-Loire. Le deuxième, ça va être de créer des outils pédagogiques pour sensibiliser le public à la biodiversité. Et le troisième, c'est d'animer des sorties nature pour créer un lien qui se veut concret entre les citoyens et leur environnement. Donc on comprend, juste avec l'examen succinct des objectifs statutaires de l'association, que c'est qu'elle va être engagée sur les questions de causes environnementales, avec un penchant plutôt sur les questions de biodiversité. Et donc à partir de là, si je me penche sur l'aspect juridique, on a justement en droit, dans le Code de l'environnement, un outil qui pourrait être particulièrement utile à l'association pour mener à bien ses objectifs. C'est ce qu'on appelle l'AAPE, l'agrément Association Protection de l'Environnement. Cet agrément, pour des critères un peu de formalisme, il est valable 5 ans. Il est donné, attribué sur des critères d'activité effective de l'association, qui doit être en rapport avec la protection de l'environnement. Donc ça tombe bien vu le statut de l'association, on est dans ce cas-là. Et il y a aussi des critères de transparence financière. Et donc, pourquoi est-ce que je parle de cet agrément ? Quel serait l'intérêt pour l'association ? Mais il y en a plusieurs qui pourraient lui permettre de vraiment prendre une dimension qu'elle n'aurait peut-être pas sans cet agrément. Le premier qui me vient en tête tout de suite serait de pouvoir participer au débat public. Par exemple, les projets d'urbanisme, les enquêtes publiques comme celle qu'il y a eu pour la deuxième ligne du tram ou la protection des sites naturels. Ça permettrait à l'association, en étant reconnue par l'État compétente sur ces questions d'environnement, de venir porter sa voix sur ce domaine, dans tous les projets publics, tous les projet qui nécessite un débat en tout cas. Ensuite, le deuxième intérêt, ça pourrait être de porter plus facilement des actions en justice au nom de la défense des causes environnementales, mais après j'ai choisi de ne pas développer ce point parce que je ne sais pas si c'est un domaine qui intéresse ou non l'association. Et enfin, le troisième avantage qui là pourra potentiellement intéresser plus l'association, c'est que ça lui permet de bénéficier plus facilement de subventions, qu'elles soient publiques comme privées. Et donc c'est utile pour les nombreuses associations, notamment qu'elles mènent tout au long de l'année. Si je résume tout ce que je viens de dire et que je me penche sur l'intérêt concret que cet agrément pourrait avoir pour l'association, c'est que d'une part, ça pourrait renforcer son implantation locale avec en agrémentant un dialogue, en mettant en place un dialogue fondé sur la reconnaissance officielle de l'intérêt environnemental de l'association, ce qui lui donnerait plus de poids pour aller parler à des entreprises, des élus, etc. Donc ça permettrait de vraiment venir renforcer sa voix par l'accréditation, l'agrément public donné par l'État. Ça pourrait aussi permettre aux moyens des subventions de venir renforcer les moyens de l'association, notamment financiers et donc par conséquent humains, etc., pour venir renforcer son action. Et donc à partir de tout ça, de ce que j'ai dit, j'aurais plusieurs questions qui me viennent à l'idée pour notre invité de l'association Couleurs Sauvages. Est-ce que par rapport à l'agrément, c'est quelque chose dont il avait déjà entendu parler, l'agrément Association Protection de l'Environnement ? Est-ce que c'est quelque chose qui potentiellement pourrait les intéresser ? Moi, c'est de mon point de vue de juriste, je serais intéressé par l'avis d'une personne qui concrètement vit au jour le jour dans les associations. Est-ce que c'est juste un outil juridique qui est un peu abstrait, difficile à manier, à mettre en œuvre de la part des associations, ou est-ce que, au contraire, c'est un agrément dont les associations se servent? Est-ce qu'elles le mettent en place? Est-ce que c'est quelque chose qui vraiment leur apporte une plus-value si elles l'ont dans leur quotidien?
Et on remercie beaucoup Victor pour cette chronique que moi j'ai trouvée hyper pertinente. Et donc je redonne la parole à Lilian. Cet agrément, est-ce que ça te parle? Et est-ce qu'effectivement, je reprends la question de Victor, est-ce que ça pourrait intéresser l'association?
Ok, alors je vais répondre au mieux, hein, parce que ces questions-là c'est plus notre coordinatrice qui gère, mais je vais répondre quand même, il n'y a pas de souci. Non, moi je ne connaissais pas cet agrément. Ce qui me sonne tout de suite dans l'oreille par contre, c'est que c'est de protection de l'environnement. Nous, on est vraiment une association de sensibilisation à l'environnement. Du coup, on a nos valeurs, on a nos engagements, mais on travaille avec tout le monde. Juste entre protection et sensibilisation, même si on veut que l'environnement soit protégé, bien sûr. Et après, honnêtement, moi, par rapport à si ça serait intéressant de l'avoir ou pas par rapport à notre association, je n'ai pas assez de recul pour vous en parler. Moi, je suis là depuis pas très longtemps, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais par contre, je le note, hein, j'en parlais. Je suis sûr que ma coordinatrice en a déjà entendu parler. En tout cas, c'était intéressant d'avoir le point de vue juridique comme ça.
Il y a un point qui fait écho aussi avec ce que tu disais donc au tout début de l'intervention de Victor. C'est par exemple cet agrément, il permet de participer au débat public, comme pour le référendum qui a été fait pour la deuxième ligne de tram. Et vous avez été impacté par ce projet de deuxième ligne de tram. Du coup, ça aurait peut-être pu être intéressant, je ne sais point. Moi non plus, je ne suis pas coordinatrice, donc je sais pas. Et donc, suite à cette chronique, on va faire une pause musicale sur le 99.5 FM. Je te laisse l'annoncer, Samuel, qu'est-ce qu'on va écouter?
Exactement, c'est une proposition de notre invité. On va écouter Roudoudou et leur titre « Peace and Tranquility to Earth ». vous venez d'écouter Roudoudou et le titre Peace and Tranquility to Earth sur Radio Campus Tours. Il est temps à présent de nous intéresser de plus près à notre invité. Alors je rappelle que Lilian est éducateur à l'environnement au sein de l'association Couleurs Sauvages. Mais quel a été ton parcours avant de devenir éducateur? Est-ce qu'il existe une formation spécifique?
Alors oui, tout à fait. Déjà, je tiens à préciser que ce n'est pas dès la maternelle que je savais ce que je voulais faire. Voilà, petite référence à l'actualité. Moi, j'ai fait... Alors, au début, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai fait un bac S, mais sans conviction. Après, j'ai fait un BTS dans le tourisme. Et là, ça m'a beaucoup plu déjà, parce que j'ai fait mes stages plutôt dans l'environnement aussi. Puis après, je suis parti un peu en Espagne. Et puis, je suis revenu. J'avais cette idée, du coup, d'être éducateur environnement. Et en fait, à ce moment-là, il y avait une licence en France qui existait pour faire ça, qui était sur Tours. Donc, c'est une licence animation scientifique, éducation à l'environnement. À l'université de Tours. Et du coup, c'est ce qui m'a, c'est ce qui a fait que je suis arrivé sur Tours et que j'ai pu faire cette licence-là en un an. Et un an extraordinaire où on apprend plein de choses, où je savais que c'était ça que je voulais faire. Ça m'a vraiment permis d'être sûr de moi, quoi. Donc, cette licence-là, mais après, il peut y avoir d'autres approches pour faire ce métier-là.
Et alors, quelles sont, au sein de l'association, les approches pédagogiques ou techniques que vous utilisez pour sensibiliser les participants?
Okay. Moi, je suis content que tu demandes parce que je te disais, tiens, j'aimerais bien parler de ça. Nous, on crée beaucoup nos outils pédagogiques. C'est vraiment important pour nous. Là, je suis revenu, on était en train de bosser dessus juste avant. On adore ça, partir de rien et dire comment on pourrait parler de ce sujet, apprendre plein de choses, mais de manière ludique. Ça, c'est génial dans notre travail.
Mais puis la particularité, donc, c'est que vous le faites vous-même.
Voilà, c'est ça. Et donc là, en plus, nous, on travaille beaucoup autour du bois et, pour faire des outils qui sont assez périns. Et on a la chance d'avoir dans l'équipe Denis qui est un peintre extraordinaire. Donc nous, on a beaucoup de chance quand on fait faire des outils et qu'on a des idées. On dit, tiens, Denis, tu pourrais pas me dessiner un renard, là, s'il te plaît, qui est en train de faire ça. Et voilà, on n'a pas de problème... De droit à l'image ou quoi que ce soit. On a beaucoup d'outils comme ça et on est un peu connu là-dessus. On fait beaucoup de pyrogravures aussi. Beaucoup d'outils qui sont en cohérence avec ce qu'on véhicule aussi. C'est-à-dire que des matières, des arts plutôt locaux pour utiliser, pour faire nos outils, de les faire nous-mêmes, pas les acheter à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est vraiment une force et une chance chez nous. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur le site Couleur Sauvage. On l'a refait il n'y a pas longtemps. Il y a toute une partie justement avec... du visuel un petit peu de ce que fait Denis, puis du matériel qu'on utilise.
Et alors, quelles sont les approches pédagogiques ou pratiques, les expériences pratiques qui ont le plus de succès auprès des enfants? Je pense que tu parlais d'une intervention auprès d'un centre à Saint-Pierre-des-Corps qui a bien marché.
Ouais.
C'est un exemple
parmi d'autres. C'est un exemple. Moi, je suis content à chaque fois. J'adore mon métier. Je suis trop content à chaque fois de découvrir plein d'enfants partout dans les écoles et puis dans... un peu partout. Hier, j'étais en fait à Saint-Pierre-des-Corps, où j'ai fait, notamment l'après-midi, j'étais avec des 6-10 ans. Et l'idée, c'était, alors le titre de l'animation, c'était Nature en ville. Il n'y avait pas... Alors, c'était un beau centre, mais il n'y a pas tant de nature que ça. Et donc, je suis parti avec une vingtaine d'enfants. On a fait 50 mètres devant le centre, et puis on a trouvé du lierre. Et moi, je fais un peu d'initiation à la vannerie buissonnière. Donc, on a pris du lierre, un brin pour tout le monde, et puis on a commencé à faire une couronne. Et alors déjà, il fallait assouplir un petit peu l'hier, fallait faire la couronne. Donc c'était déjà un petit côté manuel. Écoutez, chacun fait sa petite création. Et puis après, ils avaient un petit terrain tout à côté. Et puis ils ont vu qu'il y avait plein de fleurs, plein de pâquerettes, plein de choses. Donc ils sont tous mis à ramasser, puis essayer de les accrocher sur leur petite couronne. On aurait pu passer l'après-midi à faire ça. On les arrêtait plus, mais j'avais prévu d'autres choses. Donc je leur dis, allez, on va passer à autre chose, mais c'est trop bien. Donc en passant, ils sont passés à côté du bureau de la directrice pour montrer, regarde, on a fait ça. Enfin, super content. Et puis, en ramassant toutes ces fleurs, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de petites bêtes qui étaient là, qui volaient, qui marchaient, qui étaient autour de nous. Et du coup, on a décidé de travailler autour de ça. Donc moi, j'avais amené... plein de boîtes loupes, des petites boîtes qui permettent de capturer les insectes pour les observer, puis après on les relâche. Et après, pendant 2 heures, en fait, ils ont passé leur temps à capturer. Alors c'était marrant parce qu'il y en a qui ont peur au début. Puis au début, on attrape les gendarmes. Les gendarmes, c'est facile, il y en a partout. Et puis après, en fait, on se rend compte que les gendarmes, c'est trop facile. Et donc là, ils se sont mis en mode recherche et ils m'ont trouvé, on a trouvé une quinzaine d'espèces différentes sur l'après-midi.
Ils sont devenus très vite exigeants.
Ouais. Ah ouais, très, très. Et ce qui était génial, à la fin, j'ai dit non, mais là, on arrête parce qu'il y a votre animatrice qui dit que c'est l'heure du goûter. Là. Ah. Et en fait, ce qui était génial, c'est qu'on a passé 3 heures. D'habitude, c'est leur terrain de foot. C'est leur, et là, ils ont redécouvert cet environnement d'un œil complètement différent. Et ça, c'est vraiment important. Enfin, voilà, moi, j'étais là. Bon, voilà, j'ai passé une bonne après-midi. Et puis, en plus, voilà, ils ont oublié qu'ils étaient dans leur centre de loisirs. Quoi. La nature était là, en fait.
Sur quel type de terrain, du coup, milieu, est-ce que vous intervenez? Parce que là, il y a un milieu urbain, en ville.
Nous, on travaille sur partout. On a notre livret d'animation. En fait, les écoles, quand elles vont nous contacter, ou les centres de loisirs, vont nous dire, voilà, bah, nous, on aimerait travailler dans telle forêt ou tel milieu. Donc, nous, si on a l'habitude, il n'y a pas de souci. Si on ne connaît pas, on va faire du repérage. Et on est content de découvrir des nouveaux lieux. Si dans la cour, si près de l'école, il y a un site qui s'y prête pour y aller à pied, éviter, par exemple, de payer un bus, ça, on le fait. Donc, en fait, on travaille vraiment sur tous les milieux. On a une partie où on va travailler dans la classe, on a une partie où on va travailler dans la forêt, dans les prairies, en bord de rivière, en bord d'étang. Donc c'est très varié et chaque milieu apporte en fait sa vision et sa biodiversité. Donc ça permet de travailler sur plein de choses différentes.
Et alors, dans l'association, vous souhaitez donc initier les jeunes à l'observation et à la lecture de la forêt. Tu nous as parlé notamment d'un projet en particulier avec l'activité randonnée pisteur en forêt. En quoi est-ce que ça consiste?
Alors, ça c'est que ça s'est passé il n'y a pas longtemps et j'aimais bien, en fait, j'étais avec, donc c'était à Fondette, au château de Taillé. On a la chance d'aller pouvoir travailler là-bas. Et j'avais une matinée pisteur. Donc la base de cette randonnée, c'est de découvrir les indices de présence, les indices que les animaux ont laissés en passant par ici. Et j'avais un groupe qui venait de Paris, des 5e, donc qui ne connaissait pas la nature, qui n'avait pas l'habitude d'être en forêt. Donc déjà, l'idée, c'est de sentir un petit peu comment ils se sentent par rapport à ça. Parce qu'on peut être, quand on ne connaît pas, ça peut faire peur aussi. Il y a plein d'images sur la forêt ou des a priori qu'on peut avoir. Donc déjà, moi, c'est de leur expliquer de ce qui va se passer, qu'on va se promener. Et puis de se dire qu'on peut rentrer comme ça dans une forêt et puis ne rien voir, marcher avec nos gros sabots et puis faire fuir tous les animaux. Et puis ça peut être long. Et puis on peut apprendre à lire la forêt un petit peu, à savoir où regarder. Si on ne le sait pas, on ne peut pas le deviner, mais moi, mon objectif, c'est de leur dire, regardez, ce genre de choses, on peut les regarder, ça, on peut les regarder. Par exemple, truc tout bête, moi, quand je rentre dans une forêt, nous, on est un peu, on est passionnés, on est un petit peu fous dans l'équipe, mais on trouve une crotte d'animal, on est super contents, parce que voilà, on dit, trop bien, il a mangé ça, on part très très loin, et nous, on aime bien regarder les arbres. Parce qu'il faut savoir que dans les forêts, c'est très marrant de regarder les arbres, notamment les chênes, qui ont un petit peu des crevasses. Et il y a des oiseaux qui mangent par exemple des noisettes, mais les noisettes, c'est galère à casser avec son bec, ça roule dans tous les sens. Donc il y a certains oiseaux, notamment la citelle, c'est un petit oiseau des forêts, qui va prendre la noisette et qui va venir la coincer dans l'arbre, parce que comme ça, elle est coincée et ça ne bouge plus. Et puis du coup, elle tape dessus. Et puis, elle mange la noisette. Et ce qui fait qu'on peut trouver des fois des arbres avec plein de noisettes accrochées qui sont trouées. Et on sait, du coup, ça, c'est un indice de présence. On sait que la citelle est venue là. Et après, les enfants commencent à regarder. On marche, puis après, on n'avance plus. Ils regardent partout. Enfin, c'est ça qui est génial, que j'aime beaucoup. Et puis, moi, je suis monsieur anecdote. J'adore raconter des petites anecdotes dans l'équipe. Ils me chambent pas mal à cause de ça. Mais j'aime bien leur raconter des choses. Par exemple, il y a un oiseau qu'on va souvent entendre quand on rentre dans une forêt, c'est le jet des chênes. C'est un oiseau qui est très beau, qui a des petites plumes bleues sur le côté. Et le jet, alors, c'est le sentinelle de la forêt, donc il va alerter un peu quand il y a les intrus qui rentrent. Mais c'est aussi le jardinier de la forêt. Parce que la période où il y a plein de glands sur les arbres, il va faire des réserves partout. Il va planquer des milliers de glands dans la forêt. Pas tout au même endroit parce que s'il se fait trouver sa cachette, il n'a plus rien après. Donc il en met sous les pierres, il en met dans un arbre, un peu partout. Et puis il va en oublier. Quand il est en hiver, il va en récupérer pour le manger, mais il va en oublier. Puis il y en a certains qui vont germer, qui va permettre à la forêt de pousser un petit peu toute seule. Et du coup, la balade de pisteur, c'est ça. C'est tiens, une empreinte, tiens, cette petite indice-là, regardez, ça veut dire qu'un animal est venu se frotter. C'est tiens, on trouve une plume, à qui ça peut appartenir. Et en fait, les enfants, ils oublient, pour ceux qui avaient peur au départ, ils oublient complètement et même des fois, ils ne veulent plus sortir de la forêt. Ils sont non, on veut continuer à regarder. Donc ça, c'est génial ces moments-là. C'est vraiment d'arriver à transmettre notre passion comme ça et puis de voir les enfants qui avaient un peu d'a priori. Puis des fois, c'est vrai qu'au début, une forêt, c'est actuelle. Et puis après, voilà. Voilà.
Ensuite.
Et après, ils se disent, ah ouais, en fait, on peut le voir différemment. Puis voilà, en plus, quand on trouve une belle empreinte, généralement, j'ai un petit kit de plâtre dans le sac. On le fait, puis il la ramène à l'école après.
C'est ça. Bah justement, on se posait la question, comment on fait pour surmonter cette appréhension et le côté un peu intimidant que ça peut avoir. Finalement, c'est quoi? C'est en rentrant directement dans l'animation, ça s'oublie très vite.
C'est aussi, c'est comme tout, c'est apprendre à connaître. On fait des animations autour des petites bêtes aussi. Les araignées, par exemple, je pense aux araignées, hein, que beaucoup d'enfants et même adultes ont peur des araignées. C'est vrai que si on reste sur l'image, le préjugé qu'on a, ça fait peur. On voit des fois les enfants qui au début ont très peur. Puis après, quand on l'observe dans une boîte, en fait, déjà on est un peu en sécurité parce qu'elle ne peut pas venir sur nous, on la voit. Et puis au fur et à mesure qu'on l'apprend, une araignée c'est 8 pattes. Tiens, une araignée c'est capable. Il y en a qui sont capables d'aller sous l'eau. Ah ouais. Tiens, il y en a une autre, elles peuvent voler en mettant un petit fil de toile. Et puis elles sont balèzes quand même, elles font pas mal de choses. Et en fait, plus on en apprend, mais comme moi, plus jeune, les araignées, j'aimais pas ça. Et puis j'ai appris aussi à les découvrir. En fait, plus on découvre, plus on apprend des choses. Je pense que ça permet de faire reculer certaines peurs, pas toutes, mais certaines peurs et certains a priori qu'on pourrait avoir.
Et alors, autre animation et autre projet, mais je t'en prie si tu voulais en parler, Samuel.
Oui, quelles sont les actions qui sont proposées pour les familles sur l'impact des déchets?
Alors, on en fait plusieurs. Je pense notamment à une que j'ai faite l'année dernière, qui était vraiment chouette. Où on avait été, c'était Lusso, les châteaux. Il nous a demandé une randonnée déchets. Alors, randonnée déchets, nous, dans l'idée, c'est pas juste on ramasse des déchets. L'idée, c'est de se questionner un petit peu, de voir l'impact des déchets sur l'environnement. Donc, c'était trop chouette. On était une trentaine, donc parents-enfants. On partait de 9h jusqu'à midi, je crois. Et puis, on avait un peu de matériel pour ramasser. Mais j'avais prévu des petites pauses au fur et à mesure. Donc, on a fait une première pause où j'aurais demandé pour eux quels étaient les principaux déchets qu'on trouvait dans la nature. Puis, je leur ai fait... j'avais des sacs où on ne voit pas à travers. J'aurais fait un kimson. Je touchais des déchets, puis il fallait deviner c'était quoi le déchet. Et puis on se disait, est-ce que vraiment il peut être là dans l'environnement? Puis on se rendait compte qu'on en ramassait au fur et à mesure. Puis après, on a fait une autre petite pause où on a parlé de l'impact des déchets sur la nature et les animaux. Il y a les animaux, ça peut être super dangereux pour eux. Alors on a l'image de la tortue coincée dans un morceau de plastique, mais il y a d'autres impacts. Ça peut empoisonner, ça peut étouffer certains animaux. Mais il y a aussi certains oiseaux qui vont utiliser des déchets pour faire leur nid. On trouve, nous, alors on en a des nids, on en trouve des fois comme ça qui sont perdus. Ou on a plein de mégots de cigarettes, par exemple, qui ont été utilisés pour faire le nid. Ou alors de la ficelle qui vient des agriculteurs et tout. Donc le déchet peut être utile pour certains animaux. Ça peut être... très impactant et très négatif pour d'autres. Et puis, on a continué comme ça la balade. Et puis, je me souviens, j'avais terminé la balade. J'avais fait en amont, je voulais terminer par un truc cool. J'avais préparé un cake avec des épluchures de bananes. Et j'avais prévu, là, j'avais ramené la recette aussi. Donc, à la fin, j'aurais fait goûter, deviner ce que c'était. Je dis, cette épluchure de banane, c'était un déchet. On en trouvait aussi, on en avait ramassé aussi par terre. On peut aussi le cuisiner, en faire des choses si on a envie. Et du coup, c'était chouette ce qu'on a fait. Alors déjà, il faisait super beau, c'était une belle balade. Et on n'avait pas juste ramassé les déchets. On a ramassé, on a pesé quand même, parce qu'on était fiers d'avoir ramassé tout ça, trié. Mais on avait appris plein d'autres choses autour des déchets et puis l'impact sur la nature. Donc ça, c'est vraiment... Voilà, nous, on essaye d'aller plus loin à chaque fois dans nos interventions, d'amener une réflexion sur plein de domaines différents.
Et du coup, quel retour est-ce que vous avez auprès des familles après des animations de ce type?
Bah, trop bien. Enfin, moi, j'ai de la chance. Généralement, ça se passe bien. Là, j'ai fait une animation la semaine dernière. Les gens me disent « Mais t'es trop passionné. Du coup, on a envie de t'écouter. On a envie de revenir du coup tout seul aussi pour refaire cette balade. » Parce que des fois, ça permet de découvrir un lieu avec quelqu'un qui connaît. C'est intéressant. Puis... on peut y revenir tout seul en famille, donc ça, c'est super bien. Donc, on a des familles qui nous découvrent comme ça, puis d'autres qui reviennent, qui traversent un peu le département, même des fois, pour venir faire une animation, parce qu'ils ont bien aimé la première et qu'ils veulent découvrir autre chose. Donc, on a des bons retours, des très bons retours.
J'aimerais revenir aussi par rapport à ton parcours. Tu as dit qu'à la base, être éducateur, c'est littéralement une chose auxquelles tu n'avais pas encore pensé en étant jeune. Qu'est-ce qui t'a rapproché de la nature et de l'environnement en général?
C'est une bonne question. La nature, l'environnement, j'aimais ça. Je capturais des araignées, je les mettais dans une boîte, je leur donnais des mouches. C'était quelque chose que j'aimais bien, mais pas plus que ça. Moi, je jouais au foot, hein. C'était tout ce que je faisais quand j'étais petit, c'était ça. Mais en fait, ce qui m'a surtout dirigé vers ça, c'est que depuis petit, mais depuis tout le temps, j'aime transmettre. J'adore apprendre des choses et je suis très pénible pour ça. Parce que dès que je sais quelque chose, j'ai envie de le raconter à tout le monde. Ma famille, ils n'en peuvent plus. Dès que... ils disent non, mais c'est bon, arrête. Parce que voilà, dans ce métier-là, on est très curieux. Enfin, moi, je suis très curieux, j'en apprends tous les jours. Hier, par exemple, on a rattrapé une araignée, je l'avais vue plusieurs fois, je n'avais pas le nom. Ce matin, j'ai cherché. C'est la pisore. Voilà, je peux vous dire plein de choses sur la pisore maintenant. Du coup, l'envie de transmettre, c'est surtout ça. Et puis, voilà, dans ce métier-là, je suis vraiment à ma place parce que ça combine tout ce que j'aime. Je suis payé pour faire ce que j'aime. Je vois plein de publics différents. Ça, j'adore. Je suis une bonne partie de l'année dans la nature et j'en apprends tous les jours et je transmets tous les jours. Donc, c'est ce qui m'a amené là. C'est que voilà, ça a ramené toutes les facettes de mon métier de rêve.
Quelle belle conclusion de cette seconde partie. Ouais, on va faire une seconde pause musicale en écoutant donc un morceau que tu as là encore suggéré, Lilian.
Et merci d'ailleurs, c'est trop cool de pouvoir choisir.
Avec grand plaisir. Donc c'est le titre de Coconut Records qui s'appelle West Coast.
For a second there, I thought you'd disappear. It rains a lot this time of year. So we both go together if one falls down. I talk out loud like you're still around. No, no. And I miss. Come on.
C'était Coconut Records et le titre West Coast sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Vous écoutez l'émission Sortez. Et avec nous, Lilian Moimeau de l'association Couleurs Sauvages. Et avec le retour des beaux jours, tu proposais toute une série d'actions que l'on peut réaliser à notre échelle pour accueillir la biodiversité dans son jardin. Ces gestes sont à, nos à notre portée. Lesquels sont-ils ?
Alors, bah déjà, il faut avoir un jardin. Sinon, ça ne marche pas, mais... pour ceux qui ont un jardin, il y a plusieurs petites choses qu'on peut faire. Jardin ou balcon. Hein. Balcon, ça peut marcher pour certains petits gestes aussi. Un qu'on a beaucoup entendu parler dernièrement, d'ailleurs j'ai été vérifié ce matin, ça me paraissait fou, c'est de ne pas tailler les haies en ce moment. Parce qu'on a beaucoup d'oiseaux qui sont en train de faire leur nid dans les haies. Et si on taille, on, voilà, ça peut être un, une catastrophe pour eux. Et
donc, ne pas tailler la haie de son balcon.
La haie de son jardin. Et... et du coup, au début, je croyais que c'était une vraie interdiction. Je croyais qu'il y avait vraiment des amendes qui pouvaient être mises, mais ce n'est pas pour les particuliers. J'ai été vérifié ce matin. C'est pour les agriculteurs. Donc, il y a vraiment une loi par, par rapport à ça. Pour le particulier, c'est, bah, c'est déconseillé de le faire. Après, chacun fait comme il veut. Mais voilà, il faut savoir que c'est, ça a un impact énorme sur les oiseaux, sur les nids, sur les futurs nichés. Donc, voilà, évitez à cette période-là. Il y a d'autres périodes où on peut le faire. Autre chose qui se fait d'ailleurs de plus en plus, je trouve, maintenant, dans, même dans les villes, de la part des... ceux qui font les, l'entretien des espaces verts, c'est bah, laisser des zones d'herbe, par exemple, un petit peu en jachère. C'est-à-dire que pas tout raser à 2 cm partout. Laisser des espaces où on a des hautes herbes un peu sauvages qui viennent. Ça, c'est super important. Parce que bah, ça permet de garder, de faire venir plein d'insectes. Et bah, enfin, je rappelle quand même le rôle de beaucoup d'insectes, hein, de, des pollinisateurs, super important. Même dans son jardin. Hein. Dans son jardin, enfin, si on n'a plus d'insectes, les fruits et légumes, on en a plus. Il y en a plein qu'on n'aurait pas. Hein. Juste, je pense un comme ça, la courgette. La courgette, si on veut vraiment qu'il y ait un échange entre le plan mâle et femelle, il faut qu'il y ait un insecte qui soit là. Ou on le fait à la main, ça se fait aussi. Mais voilà, c'est ultra important donc, d'avoir ça. Vous allez favoriser même votre potager en ayant comme ça tout cet espace. C'est voilà, moi, ces jardins tondus là, à 4 épingles, là, je veux... Moi, personnellement, voilà, moi, c'est pas mon truc. Après, mon jardin, c'est pas non plus une forêt, mais voilà, entre les deux, c'est intéressant et puis ça permet voilà, d'accueillir beaucoup d'insectes. Nous, ce qu'on fait aussi, on le fait d'ailleurs des fois en activité, en fabrication. On fait des ateliers comme ça aussi. Bah, ça va être de fabriquer des nichoirs, par exemple. Donc, nichoirs, on peut en acheter, mais on peut en fabriquer. C'est pas très compliqué avec un petit peu de matériel. Et puis, bah, les nichoirs, suivant les oiseaux qu'on va accueillir, ça va dépendre de la taille de l'ouverture du trou. D'accord ? Et bah, ça, super important. Enfin, si, quelque chose de tout bête, mais si vous mettez un nichoir et que vous avez la chance d'avoir des hirondelles qui viennent dans ce nichoir, le couple d'hirondelles, je crois que c'est plus de 1000 moustiques par jour. Donc, si on est embêté par les moustiques, c'est plutôt intéressant d'avoir des animaux comme ça qui vont maintenir l'équilibre dans votre jardin.
Ah, et tu disais aussi que les nichoirs, ils peuvent être investis par les chauves-souris, ça arrive ?
Ouais, on a, puis il y a des nichoirs spéciales chauves-souris.
Je veux.
Ça, c'est trop bien. Non, mais chauves-souris, en plus, pareil, ça mange beaucoup, beaucoup de,
d'insectes,
d'insectes, de moustiques.
Parasites.
Donc, super intéressant. Ça se fabrique aussi. Ce n'est pas les mêmes modèles, en fait, hein, suivant l'animal qu'on veut espérer avoir, parce que voilà, ce n'est pas une garantie en mettant un nichoir qu'on aura tout de suite des oiseaux dedans, mais c'est... on peut essayer, et puis voilà, suivant la taille, suivant où vous le placez, suivant l'ouverture, vous allez vous permettez peut-être à une espèce de venir habiter dedans. Puis après, nous, on y pense moins. Il y a autre chose, c'est les abreuvoirs aussi. On pense beaucoup en hiver à mettre des petites graines pour les oiseaux, pour qu'ils puissent manger. L'été, on oublie que bah, les oiseaux et les insectes ont soif. Donc des fois, c'est rien, hein. C'est juste d'avoir une petite coupelle d'eau. Même pour les insectes, hein, c'est super important. Alors, pour les insectes, quand même, petit détail, je le dis quand même, c'est bien de mettre une petite pierre ou un petit endroit pour pas qu'ils se noient, qu'ils puissent, si jamais ils tombent dans l'eau, qu'ils puissent revenir facilement pour pas se noyer. Mais voilà, c'est des petites choses toutes simples qu'on peut mettre dans son jardin ou même sur le balcon, quand on parlait de balcon tout à l'heure, mais qui permettent d'accueillir voilà, une petite biodiversité à la maison.
J'ai une question carrément hors sujet, mais est-ce que c'est intéressant de garder une araignée dans sa chambre ?
Une araignée ?
Ouais.
Bah, une araignée, pareil, elle va manger plein d'insectes, ouais. Ok ? Ceux que généralement tu n'aimes pas trop en plus avoir dans la maison. Et puis, bah, y a beaucoup d'araignées, alors il y a plusieurs espèces, mais je pense à une, notamment celles qui sont un peu grosses, là, des fois, qu'on n'aime pas trop, les tégénaires. Elles, généralement, on ne va pas les voir, elles vont rester plutôt planquées. On va les voir rarement, des fois quand c'est à la période de reproduction. Mais sinon, elles vont être planquées et puis tu ne vas pas te rendre compte, mais en fait, elles vont manger des insectes comme ça. Donc, c'est bien. Moi, je dis ça là, après à la maison, il faut voir si tu es en couple, si tout le monde est d'accord. Mais voilà, ça ne sert à rien de tuer toutes les petites bêtes que tu as dans la maison. Elles vont pas t'apporter de mal ou quoi que ce soit. Elles vont pas venir te croquer la nuit. Ou,
Ouais, moi j'ai tendance à les baptiser les petites araignées chez moi.
Ouais, moi ça devient des
membres de la famille. Après on cohabite et tout, je lui donne à bouffer. Bref. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aimerais particulièrement sensibiliser, une action à laquelle tu es particulièrement sensible?
On a un peu parlé tout à l'heure, mais je vais y revenir parce que on voit des choses assez choquantes. Des fois, c'est tout ce qui va être déchets en forêt. En fait, nous, on travaille régulièrement dans les forêts et on voit, mais tout le temps, en fait, tout le temps, il y a des déchets et des fois, on ne comprend pas. Enfin, que les gens ne se disent pas, bah, tiens, je mets dans la poche et je trouve une poubelle plus loin. Parce qu'il y a des fois des choses qu'on trouve qui sont vraiment choquantes. Hein. J'ai souvenir de couches qu'on trouve comme ça dans la forêt. Enfin, c'est... on va dans la nature, elle ne nous appartient pas, on peut la respecter et je pense que c'est à la portée de tout le monde de faire attention à ça. Et c'est hyper frustrant en plus parce que y a des gens qui le font très très bien, qui font très attention parce que c'est normal, et de voir qu'il y en a d'autres qui n'en ont rien à faire ou qui laissent des mégots comme ça, enfin voilà, moi c'est le petit truc vraiment qui révolte un petit peu quand on arrive. Et puis même avec les enfants, quand on est en balade, qu'on voit tout ça, c'est limite les premières choses qu'ils voient et c'est pas normal en fait.
Quels sont les principaux défis auxquels vous faites face au sein de Couleurs Sauvages?
Alors, défis dans quel sens?
Difficultés, déjà, peut-être.
Ok. Déjà, c'est de nous d'avoir toujours du public qui veut travailler avec nous, donc de renouveler, d'avoir du temps. Là, le défi qu'on a beaucoup en ce moment, c'est de trouver du temps, parce qu'on est tout le temps sur le terrain, de trouver du temps pour se poser en équipe. Parce qu'on est une équipe, mais on a une période de l'année où on se croise, on ne se voit pas. On s'envoie des petits messages pour dire « Ah, c'était cool, regarde, j'ai fait ça moi aujourd'hui de mon côté. » Parce qu'on va aux quatre coins du département et du coup, on est sur nos actions, ça se passe très bien, mais on ne se voit pas. Et là, une des difficultés qu'on pourrait avoir en ce moment, c'est de trouver un temps où genre, on a deux jours où on ne fait que de la création. On se pose sur « Tiens, qu'est-ce qu'on aimerait faire plus tard? Qu'est-ce qu'on aimerait développer? Comment on peut y parvenir ?» Et vraiment prendre ce temps-là et... on espère le trouver, puis on se dit toujours, là on a déménagé, ce qu'on disait tout à l'heure, on a un petit jardin, là on se projette, barbecue, etc. Alors, on n'a pas encore mis un pied dans le jardin, c'est un très bon signe. C'est-à-dire qu'on a du boulot, mais des fois ça fait du bien de prendre un peu le temps, de prendre un peu de recul pour faire des nouvelles choses, parce que c'est une des chances qu'on a dans notre travail aussi, c'est de pouvoir créer pour se renouveler. Ouais.
Et alors justement, si on se projette un peu à long terme, qu'est-ce que vous aimeriez développer alors à l'avenir avec Couleurs Sauvages?
Alors, dans notre idéal, déjà ça, rien qu'en termes de locaux, ce serait d'avoir notre local sur un terrain et de pouvoir accueillir du public directement chez nous. Ça serait top, ça serait vraiment génial. Et puis sinon, dans les projets à développer, là on est en train de bosser sur un sujet là en ce moment qu'on espère finir là pour mai-juin pour pouvoir l'utiliser. On travaille en ce moment nous sur le voyage des graines. Parce que voilà, une graine, on ne se pose pas trop la question. Et en fait, les plantes ont prévu plein de choses pour que leur graine aille le plus loin possible, puisse germer et puis pouvoir faire une autre plante. Donc là, on est en train de réfléchir à tout ça, comment on pourrait... comment créer un outil pour que les gens comprennent que des fois, des graines sont conçues exprès pour rester collées sur les poils des animaux. D'autres sont toutes légères, comme le pissenlit, pour voler très très loin et puis se poser. D'autres vont flotter. Les noix de coco, elles vont tomber souvent dans l'eau, puis elles vont flotter, puis aller très très loin. Et du coup, c'est partir de ça, dire tiens, comment on pourrait apprendre plein de choses là-dessus. Et puis comment concrètement, si par exemple on tient un stand qui a une fête de l'environnement, comment on peut apprendre des choses sur ce sujet aux gens qui vont passer. Donc là, on est en plein dedans. Là, c'est trop intéressant, ces périodes de création pour nous aussi. On se dit, ah, tiens, on pourrait faire ça, ça pourrait être chouette.
Ouais, c'est super stimulant.
Ouais, exactement. Ça part dans tous les sens, mais c'est très bien. Puis après, on est hyper fiers en fait, d'avoir comme ça un outil. On est parti de zéro et d'avoir quelque chose. Il y en a un, j'aimerais bien parler d'ailleurs. On l'a fait pour la ville de Tours l'année dernière. C'était la semaine de la résilience. Donc, il y avait à la Gloriette plein de stands. Et nous, on était partis sur une idée de zéro. Et on voulait projeter les gens dans le futur. Et donc, on avait fait un faux article Science et Vie sur un scientifique qui avait consacré sa vie au développement durable et puis au réchauffement climatique, et puis qui était décédé en 2100. Et on avait mis un stand qui était tout fermé, et on proposait aux gens de rentrer dans ce stand et d'essayer d'enquêter un peu, savoir ce qui s'était passé. Et donc, dans ce stand, c'était son bureau à ce gars-là, mais en 2100. Donc, il fallait regarder. Alors, c'était un savant qui, sur chaque pan de mur, mettait les causes, les conséquences, les choses. Il met l'accroché des choses partout, et puis il y avait plein de petites notes. Il avait des cadenas aussi. Et puis, sous toute la journée, on a une centaine de personnes qui... De l'extérieur, on ne voyait rien, donc on va essayer. Donc, il rentrait dans le stand et puis qui regardait partout, qui rentrait dans un autre univers pendant 20 minutes, complètement déconnecté. Puis, au fur et à mesure qu'ils remplissaient leur enquête, à la fin, ils avaient appris plein de choses sur l'effet de serre, sur certaines conséquences, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça. Enfin, et c'est un exemple de vraiment où on part d'une création de rien du tout et on a un outil après qu'on confronte au public. Et ça, c'est trop bien dans notre travail aussi de pouvoir faire ça.
Du coup, pour finir cette émission, sur quels événements est-ce qu'on pourra vous retrouver prochainement ?
Alors, c'est une très bonne question. Je ne les ai pas tous en tête, mais j'en ai quelques-uns. On sera notamment au mois de juillet, il y a la fête des Rouchous à Semblançay, qui est une grosse fête de l'environnement, où il y a vraiment beaucoup d'animations, beaucoup de stands qui sont présents. Et puis après, il y en a d'autres, je crois, c'est à Bourgueil, on sera présent. Puis je ne les ai pas toutes en tête parce que là, c'est celle où moi je vais être, mais les collègues seront sur d'autres aussi. N'hésitez pas à aller, de toute façon, sur les programmes, sur notre site aussi, Internet, vous pourrez trouver aussi les dates de notre présence sur les stands.
Oui, et puis tu nous as parlé aussi donc, de l'agenda nature du département Indre-et-Loire, qu'on a présenté du coup la semaine dernière parce qu'on était avec la Brigade Verte donc, du département d'Indre-et-Loire, et sur lesquels donc, vous animez pas mal de choses.
Ouais, en fait, sur ce... On a plein de sorties, parce qu'on travaille vraiment sur tout le département. Donc, je sais qu'au mois d'août, par exemple, ou juillet-août, on travaille pas mal à Loche, donc dans le sud du département, dans les prairies du Roi, où on va faire une animation sur papillons et libellules, sur une soirée chauve-souris, où on va se balader, puis essayer d'en apprendre et d'écouter un petit peu les chauves-souris. Enfin voilà, plein de choses comme ça, différentes. Puis à chaque fois, avec passion et bonne humeur. Donc ça, voilà. Je vous invite à aller voir d'ailleurs sur l'agenda. Il y a plein de choses, même d'autres structures du département. Il y a vraiment beaucoup de choses. On a de la chance en Indre-et-Loire.
Et ben merci beaucoup, Lilian de Couleur Sauvage, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était très chouette comme émission.
Merci beaucoup.
On peut vous retrouver, il y a un site internet du coup pour Couleur Sauvage.
Ouais, alors si vous tapez Association Couleur Sauvage, vous tombez sur notre site. Il est tout récent, on l'a rechangé il n'y a pas longtemps, donc n'hésitez pas à y aller. Il est très complet. Et puis vous pouvez aussi... adhérer à l'association, on a un système d'adhésion qui s'appelle l'adhésion, j'ai oublié le nom, c'est pas grave, mais en gros c'est 10 euros par an, voilà, l'adhésion de soutien, c'est ça. Et puis avec cette adhésion, en plus, vous pouvez avoir un lien vers une newsletter, tous les mois on fait une petite newsletter qu'on envoie, et puis dessus il y a, comment fabriquer un nichoir, quelle plante est comestible à cette saison, petite anecdote sur un animal, donc... Voilà, ça permet de faire du lien avec nous, de suivre un petit peu nos actions et puis d'en apprendre plein de choses sur la nature.
Et sur cette belle touche d'adhésion, le podcast de l'émission est à retrouver sur radiocampustour.com. On se laisse sur une touche musicale, une proposition de notre invité Lilian, c'est Bonobo et le titre Black Sand. Et nous vous souhaitons une agréable soirée.